There are 274 million French speakers in the world. For France's Emmanuel Macron, speaking French opens doors in an increasingly globalized world. But what many don't realize is that there are more French speakers in Africa than Europe. In 2014, there were 150 million francophones in Africa, but less than 100 million in Europe. There's another 20 million from the Americas and the Caribbean, followed by 2.5 million in the Middle East and Asia. Finally, around 1 million are living in the South Pacific. By 2050, Africa could account for 85% of the francophone world. But according to the International Organization for la Francophonie, those numbers could change depending on how the organization's 54 member states choose to reinforce the language's teaching. With a potential for 700 million speakers, French could become the most widely spoken language in the world. But for now, it ranks fifth worldwide, behind Arabic, English, Spanish, and Mandarin, with 848 million speakers.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Focus Richaud targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target, Popori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m., in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie. Mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Potpourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans. Sur CUT 89,5 FM, Popourri Show, sur votre fréquence, tout au long de l'année, la radio, comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette, with butter or marmalade?
Le département d'études françaises de l'Université de Toronto est fier d'annoncer son tout premier gala d'excellence. Un événement visant à reconnaître les réalisations exceptionnelles des étudiants, du corps professoral et du personnel. Cette soirée de célébration se tiendra le vendredi 25 avril à Father Maiden Hall, St. Michael College, de 18h30 à 21h. Au programme, remise de prix, discours inspirants et opportunités de réseautage. Gala d'excellence du département d'études françaises, Université de Toronto. 25 avril 2025, au Father Maiden Hall, St. Michael College, 100 St. Joseph Street, à Toronto. Plus de détails sur popourishow.com. Premier gala d'excellence du département d'études françaises sur notre campus, Université de Toronto. Un événement qui met en lumière l'impact de l'éducation, de la recherche et de l'engagement communautaire et célèbre les contributions exceptionnelles de nos étudiants, enseignants et membres du personnel. Alors, soyez-y!
Usted está escuchando
Terre d'Alliance,
Tierra de Alianza.
Usted es Terre d'Alliance,
sur France Inter,
con Alexandre Héron.
Oui, bonjour. Toronto, c'est les gens qui y habitent.
Pourquoi tu filmes? Tu enregistres en direct maintenant?
Toronto change au fur et à mesure que la population de la ville change. Et
comme ça, ben pourquoi pas?
Son identité, c'est la culture et les désirs de devenir de chacun qui y habite.
On est live sur Twitter ou quoi?
Il paraît que si vous tendez bien l'oreille, vous pouvez entendre parler plus de 120 langues à la fois sur le macadam de Toronto. Pas étonnant, si l'on considère ce que nous allons pas manquer de faire pour cette dernière étape de notre tour du monde estival au sein des alliances françaises, si l'on considère que le monde s'est donné rendez-vous à Toronto. Toronto, cette mégapole de 5 millions de citizens, est la capitale économique de l'immense Canada. Le Canada, c'est le second plus grand pays de la planète après la Russie. 10 millions de kilomètres carrés partagés par 36 millions d'habitants et autant d'élan, de caribous ou d'orignaux certainement.
Terre d'Alliance, Alexandre Héros, sur France Inter.
Morning edition from NPR News.
France Inter. Le 18-20. Christelle Rebien.
Je suis la langue française, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que l'on me parle et c'est parce que l'on m'écrit. Je lègue 26 lettres pour l'art et la poésie, pour styliser les romans, les mots doux et les scénarios. Sers-toi de moi pour te battre et protéger les valeurs, pour créer la connivence entre auditeurs et locuteurs. Parce que la diversité éloigne la monotonie. Mali, Mississippi, Canada, Cambodge, Haïti. J'accompagne les nobles causes de façon pacifique. Je suis rythmique, philosophique, pas si vite. Libre, évolutive, la langue vie, révolte, danse. Et le livre des livres et livre des livres de pensée. Et je cohabite avec les dialectes et d'autres langues. Ma structure grammaticale est un rempart à la novlangue. Je suis le développement durable, l'exemple d'écologie. Je suis la langue française, je suis la francophonie.
Bonjour et bienvenue sur Popourri Show, CUTFM, votre magazine de la francophonie. L'ingénieur du son DJ Devera, accompagné de réalisateurs, animateurs de RFI, France 24 et TV5 Monde. En mon absence, Popourishow CUTFM vous propose une sélection de meilleurs magazines et podcasts les plus écoutés par les auditeurs de RFI à travers le monde. Vous entendrez des voix de couleur tropicale, l'émission des musiques afro sur RFI depuis 30 ans. Des débats sur l'intelligence artificielle où des experts reconnus abordent les enjeux de cette nouvelle technologie qui est en train de révolutionner notre monde. Un panorama de la presse internationale sur les sujets d'actualité. Sur le pont des arts, 50 minutes pour découvrir, partager, s'étonner, s'évader. Littérature et cinéma, stand-up ou série, peinture ou graphe, musique et slam. Tous les arts sur le pont, sur tous les continents. C'est le nouveau rendez-vous de RFI consacré à la culture avec le reportage, des chroniques et des correspondants. Et enfin, je vous invite à découvrir toutes les activités, les rendez-vous, les nouveautés littéraires, les bons plans de nos partenaires en visitant chaque semaine popourishow.com. Popourishow, 38 ans déjà, en partenariat avec Radio France Internationale, TV5 Monde et France 24. Reportages, chroniques et des émissions originales à écouter absolument ou réécouter sur popourishow.com. CUT FM, Popourri Show. Écoutez le monde autrement, à partir des mots et des sons, des francophonies d'ici et d'ailleurs.
Focus sur le mouvement Stand Up for Science, où lorsque la communauté scientifique tente de résister depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier 2025, le domaine de la recherche scientifique traverse une période de bouleversements majeurs, coupes drastiques, coupes budgétaires, censure, licenciements massifs, déclarations controversées également. On crée un climat préoccupant pour la communauté scientifique face à ces défis. Le mouvement Stand Up for Science, c'est donc intensifié. Bonjour à vous, Guillaume Grallet.
Bonjour, Navia.
On va revenir dans le détail justement sur ce mouvement. Mais d'abord, quelles mesures récentes de l'administration Trump ont-elles justement eu ces conséquences désastreuses presque sur le domaine scientifique aux États-Unis?
Oui, c'est un véritable tremblement de terre qui suscite énormément d'émotions, de craintes. Hein. Il y a même des scientifiques que j'ai pu contacter qui ont peur de parler. Et c'est véritablement toutes les agences gouvernementales de recherche qui sont impactées. On a vu une des directrices de la recherche de la NASA être tout simplement remerciée. On a vu également des licenciements massifs à la National Oceanic and Atmospheric Administration, donc qui observe les océans, tous les mouvements, qui prend des mesures assez capital, on va en parler surtout pour la recherche internationale, pour la coopération internationale. Ce sont des réductions budgétaires qui ont également touché la National Science Foundation et qui touchent également l'Agence de protection de l'environnement qui a vu son budget drastiquement réduit, également touché la National Institutes of Health. C'est un principal bailleur de fonds en recherche médicale qui a dû stopper, c'est très grave, des essais cliniques. Et l'université Johns Hopkins a interrompu une étude sur les maladies neurodégénératives faute de fonds publics. Bref, on voit des effets extrêmement concrets sur les chercheurs, mais également sur les programmes de recherche. Je vous propose, pour voir un petit peu une étendue de tous les changements, comment ça se vit très concrètement, d'écouter un physicien, Julien Bobrov, quelqu'un qui est extrêmement vulgarisateur sur la physique, un Français qui voulait montrer sa solidarité avec les scientifiques américains.
Alors en 2 mois seulement, il a attaqué les emplois scientifiques, il a gelé plein d'emplois et il a même viré plusieurs centaines de scientifiques d'une des agences sur le climat, la NOAA. 2, il a gelé plein de financements publics et il a même carrément retiré des budgets de plusieurs milliards sur le médical ou sur le climat. 3, à l'international, non seulement il a fait annuler plein de conférences, et il a même interdit aux scientifiques des agences publiques et des labos publics américains de participer au GIEC. Et 4, peut-être le pire, il fait de la censure. Il a bloqué ou carrément enlevé des données scientifiques sur des essais cliniques, par exemple, ou des données sur le climat. Il a provoqué des pauses, voire des rétractations d'articles scientifiques en cours. Il a retiré plus de 8000 pages web qui portaient des mots-clés qui lui plaisaient pas. Par exemple, changement climatique, genre, ou même femme. Si vous allez, par exemple, sur la page changement climatique de la Maison-Blanche, ben voilà ce que vous trouvez.
On pourrait encore écouter longtemps Julien Bobrov, tellement la liste est longue. On a du mal quand même à y croire, Guillaume, on a l'impression d'être entré dans une époque de chasse aux sorcières.
Oui, c'est-à-dire que c'est une expression que l'on doit à Yann Lequin, donc c'est un scientifique français qui travaille, qui est chercheur chez Meta, mais également à l'Université de New York, et il a dit publiquement, faut faire attention parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a certains termes, comme l'a expliqué Julien Bobrov, qui sont tout simplement interdits. On a vu également des nominations, comme celle de Robert Kennedy, des nominations qui posent énormément de questions parce qu'elles ne font pas l'unanimité. On se demande, il était lui-même connu pour ses positions anti-vaccin. Il a été nommé au poste de ministre de la Santé, effectivement. On a vu également l'administration Trump annoncer le retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, de l'OMS. Et puis, beaucoup de manifestations, beaucoup d'émotions suscitées par ces mesures dans le monde entier.
On en est qu'au début de cette administration et de ce mandat, et pourtant cela pourrait avoir des conséquences dommageables sur le long terme.
Oui, ce qui est très intéressant, c'est que bien sûr les budgets sont touchés, les scientifiques américains en payent le prix fort, mais c'est également la recherche tout simplement au niveau mondial qui pourrait être impactée, parce qu'on va bloquer l'accès à certaines données, et j'ai pu m'entretenir, grâce à mon collègue Peter O'Brien, avec des responsables de Copernicus. C'est un institut de recherche au niveau européen, et qui explique qu'on a besoin d'observations au niveau niveau mondial, et ne pas les avoir, ça peut avoir des répercussions immédiates pour les générations à venir, des observations climatiques à l'échelle mondiale, et effectivement, ça pose énormément de questions. Ça concerne le climat, mais c'est également le cas pour la santé. Tout ce qui se passe en ce moment aux États-Unis va toucher la planète entière, Nabia.
Oui, il va y avoir des conséquences mondiales. Privés de leur travail, de leur mission, de leur recherche, ces scientifiques pourraient aussi être les bienvenus, ou certains, en tout cas, aimeraient les accueillir.
Oui, c'est-à-dire qu'on a vu donc cette émotion mondiale, Stand Up for Science, qui a donné naissance à des manifestations dans pas moins de 30 villes aux États-Unis, notamment à Washington. On a vu des messages, comme on le voit à l'écran, qui sont extrêmement clairs, hein, des inquiétudes très fortes. On a même vu, lors de la manifestation à Washington, dont on voit des images en ce moment à l'écran, Nabia, Emily Whitehead, qui est la première patiente traitée avec la thérapie CAR-T-cell, qui a partagé son expérience. Elle a montré à quel point les avancées scientifiques menacées par les coupes budgétaires peuvent avoir des effets extrêmement concrets. Et Anthony Fauci, donc un immunologue de renom et conseiller médical en chef sous plusieurs administrations, a contredit les déclarations de Donald Trump, ce qui a poussé plusieurs universités, on en parlait, Nabia, comme celle de Aix-Marseille, de créer un fonds, pas moins de 15 millions, pour un programme de 3 ans, pour dire, ben, vous êtes les bienvenus chez nous, venez, on a besoin de vous, vous serez les bienvenus à la fois en Europe, mais dans le reste du monde.
Est-ce qu'on a les moyens? Ça, c'est une autre question, de les accueillir.
Oui, c'est une vraie question.
Ouais, au moment où la recherche aussi en France pose question. En attendant, quelles sont les répercussions de ces politiques sur la recherche dans le reste du monde, en particulier en Asie ou encore en Afrique?
Oui, c'est-à-dire qu'on va le voir dans le monde entier, hein, les recherches au niveau de la santé, au niveau du climat. Moi, j'ai trouvé extrêmement vibrant un appel, parce que j'ai pu m'entretenir avec elle, Cataline Carico. Vous savez, c'est une scientifique qui a quitté la Hongrie sans le sou, j'ai envie de dire, qui a fait énormément de recherches sur l'ARN messager, qui a permis la découverte du vaccin. Elle a dit, j'ai l'impression de me retrouver derrière le rideau de fer, c'est-à-dire c'est pour montrer ce climat, mais elle donne quand même un petit message d'optimisme, et je voudrais terminer là-dessus, en disant, c'est un appel à tous les scientifiques mondiaux, continuez à échanger vos données, c'est comme ça qu'on y arrivera. Moi, lorsque j'étais dans une dictature, j'ai quand même réussi à faire des recherches, et c'est ce petit message d'espoir qu'on aimerait transmettre aujourd'hui, Nabia, à tous les scientifiques. Leur métier est extrêmement important, on en a besoin de la science.
Merci beaucoup Guillaume, merci à vous pour retrouver votre chronique sur vos réseaux sociaux. On marque une très très courte pause.
Ce lundi, le Niger a annoncé son retrait de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Ce départ marque un tournant dans la politique extérieure du pays, qui rompt ainsi ses liens avec la France. L'OIF regroupe 88 États, principalement francophones. Cette rupture est d'autant plus symbolique que l'organisation a été fondée à Niamey en 1970. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères nigérien a précisé que cette décision a été prise de manière souveraine. Suspendu de l'OIF après le renversement du président élu Mohamed Bazoum, le Niger avait été sommé par l'organisation de rétablir l'ordre constitutionnel et de libérer Bazoum, qui reste toujours détenu par la junte au pouvoir. Ce retrait survient après que le Niger ait également quitté la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le Niger forge désormais des alliances avec les juntes militaires du Burkina Faso et du Mali, ainsi qu'avec la Russie, et se détourne progressivement de ses relations avec les puissances occidentales.
Kodjo, bonjour.
Bonjour, hein, bonjour à tous les auditeurs de RFI. Merci pour tout ce que vous faites.
Et
vous
merci.
Étiez en Guinée, au Bénin.
Oui.
Merci, merci, merci. Un grand coucou pour tout ce que vous faites pour le peuple africain.
Bah, remercie surtout RFI et toute l'équipe d'Appel sur l'actualité qui m'aide au quotidien à préparer, à vous présenter cette émission. Kodjo, quelles sont vos questions?
Oui, quelles raisons les autorités nigériennes, burkinabées, maliennes ont-elles donné concernant leur retrait de l'OIF?
Oui. Oui, pourquoi ont-elles décidé de quitter l'Organisation internationale de la francophonie? Bonjour Alassane Diaye.
Oui, bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes le chef du service des instances de l'OIF, le service qui gère les États et gouvernements membres. Alassane Diaye, les auditeurs, évidemment, n'ont pas pris connaissance des lettres officielles adressées pour annoncer justement le départ de ces trois pays. Quelles sont les raisons invoquées par Niamey, Ouagadougou et Bamako?
Bonjour Monsieur Gomez, bonjour à tous vos auditeurs. Effectivement, l'Organisation internationale de la francophonie a reçu copie des notifications par le Burkina et le Niger de leur décision de se retirer de l'OIF. Et ce sont des décisions que l'OIF a regrettées et regrette et déplore en même temps. Mais ce sont des décisions que l'Organisation respecte, pour la simple raison que chaque pays, comme vous le savez, adhère librement et de manière souveraine à des conventions internationales. Et pour la même raison, chaque pays peut décider de manière tout aussi libre et souveraine de se retirer des conventions internationales.
Évidemment, mais ces trois pays, j'ai cru comprendre Alassane Ndiaye, ont mis en avant leur souveraineté pour justifier leur départ.
Effectivement, et c'est ce que nous respectons. Nous respectons le droit de chaque pays d'exercer pleinement sa souveraineté dans le cadre des enceintes internationales. Et c'est prévu par la charte de l'OIF, en son article 10 plus précisément, et sans que la décision de se retirer soit sortie d'une quelconque obligation de motiver cette décision.
Oui. En même temps, excusez-moi, dans leur motivation, et en l'occurrence le Mali, Bamako est pour le moins critique à l'endroit de la francophonie. J'ai sous les yeux un extrait justement de cette lettre officielle. Je cite « Depuis l'avènement de la transition, l'OIF, au lieu d'accompagner le Mali dans la réalisation des aspirations légitimes de son peuple, s'est illustré par l'application sélective des sanctions et le mépris pour la souveraineté du Mali. »
Alors, pour le cas que vous citez, nous n'avons pas à ce stade reçu officiellement notification de cette décision. Nous avons reçu celle du Niger, de la République du Niger et celle du Burkina Faso. Mmh. Et personnellement, j'ai découvert, peut-être comme votre auditeur, c'est la décision concernant ce pays que vous citez.
Le Mali.
Le Mali, voilà, dans les réseaux sociaux. Mais cela dit, dans les correspondances reçues, il est effectivement fait mention, allusion, je dirais, aux décisions prises par les instances dirigeantes de l'organisation en 2022 et en 2023, pour ce qui concerne le Burkina et le Niger. Mais je dois préciser une chose à l'attention de aux auditeurs. Les décisions que prend l'organisation sont fondées sur les mêmes principes. Ces principes sont portés par les mêmes textes, et ces textes sont adoptés par les États et gouvernements membres eux-mêmes, y compris le Burkina, le Mali et le Niger. Il n'y a pas d'application différenciée. Chaque situation est examinée selon les mêmes procédures et selon les mêmes principes.
Alors, justement, on va redonner la parole à Kodjo dans un instant, mais je me fais le porte-parole de Touré. Il est chauffeur routier, il est en Côte d'Ivoire. En ce moment, il est en pleine route, donc il ne peut pas prendre le téléphone. Mais il nous dit sur WhatsApp, pourquoi ces trois pays ont-ils été suspendus de l'OIF, qui n'est pourtant pas une organisation politique? Effectivement, ces trois pays, avant de claquer la porte, ça faisait quand même plusieurs années qu'ils étaient suspendus de l'organisation.
Oui, ces trois pays ont été suspendus par les instances dirigeantes de l'organisation en application encore une fois des textes. Et l'un des textes majeurs qui sert de soubassement à ces décisions s'appelle la déclaration de Bamako. Vous voyez le lien donc au Mali. C'est un texte qui a été adopté en novembre 2000 au Mali. Et c'est un texte qui habilite l'organisation à examiner les situations politiques des États membres, à s'y prononcer et, si besoin, à prendre des mesures adaptées.
Oui, cette déclaration, pour résumer, considère que francophonie et démocratie sont indissociables et si la démocratie n'est pas respectée, si des violations graves des droits de l'homme sont constatées, dans ce cas-là, l'organisation peut effectivement sanctionner le pays membre en question. Alassane Ndiaye, restez avec nous parce que Kodjo a une autre question à vous poser et le temps passe très vite. Kodjo, allez-y, votre dernière question.
Oui, quelles étaient ces réalisations et actions dans les pays concernés?
Que faisait la francophonie au Mali, au Burkina Faso et au Niger, trois pays qui, je le rappelle, sont suspendus depuis plusieurs années?
Oui, l'organisation fait beaucoup de choses dans ces pays, hein. C'est un partenariat. Et ce que elle fait en termes de réalisation et d'action couvre un vaste champ qui va de l'éducation à la formation, au numérique, le renforcement des capacités des femmes et des jeunes en matière d'entrepreneuriat, les questions d'environnement. C'est une vaste palette d'éléments de coopération dont bénéficient en priorité les populations de ces pays.
Et des populations qui ne pourront plus bénéficier de ces programmes, maintenant que ces trois pays ont décidé de se retirer de l'OIF. Ibrahima nous rejoint, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Vous êtes en Guinée, nous vous écoutons.
Ma première question, qu'est-ce que ces pays apportent à l'organisation ?
Alassane Diaye.
Alors, pour ce qui est ce que ces pays apportent à l'organisation, bon, je pense que les pays concernés eux-mêmes sauront mieux le dire, mais tout ce que je veux relever, c'est que dans la vie internationale, les partenaires s'apportent mutuellement. Les États membres cotisent, s'acquittent de contributions qui permettent à l'organisation de fonctionner, mais en retour, l'organisation développe des projets, comme je l'ai dit tout à l'heure, des projets qui bénéficient à ces États et à leur population, d'une manière directe ou d'une manière indirecte. C'est ce que l'OIF fait au quotidien, c'est son travail, et je crois que les pays concernés et la majeure partie des pays membres de l'organisation saluent habituellement le travail de l'OIF dans ces domaines-là.
TV5Monde.com, c'est tout TV5Monde et bien plus encore.
Retrouvez le guide des programmes traduit en 5 langues.
Découvrez les bandes annonces de vos films.
Visionnez où vous voulez et quand vous voulez vos émissions favorites.
Restez connectés à l'information avec toute l'actualité internationale en direct, nos JT et dossiers multimédia.
Voyagez avec un site 100% Afrique.
Visitez toutes les cultures du monde.
Consultez la météo.
Interrogez notre dictionnaire.
Vibrez sur toutes les musiques du monde.
Apprenez et enseignez la langue française.
Jouez et gagnez des cadeaux avec nos quiz et nos concours.
Voyagez, découvrez, partagez. Tous les mondes se rejoignent sur tv5monde.com.
De 11h à 13h, Popourri Show sur CUT 89,5 FM, Toronto. Toute la diversité de la francophonie sur votre fréquence.
Si on faisait dialoguer les générations, cette semaine face à face exceptionnelle entre André Comte-Sponville et Salomé Sacquet pour penser les grands enjeux d'aujourd'hui et de demain. Avec eux, l'auteur du best-seller annoncé de la rentrée, Roger Paul Droit, la philosophe Marie Robert et l'irrésistible Pierre Michon. Ça se passe ici, dans la Grande Librairie.
La Grande Librairie, mercredi soir à 21h05 sur France 5 et sur la plateforme France.tv.
Le livre du jour. Chaque semaine, notre partenaire, la maison d'édition Prise de Parole, nous présente l'actualité et les nouveautés littéraires avec pour seul mot d'ordre, le plaisir. Découvrez les écrivains de la diversité francophone de l'Ontario et du Canada. Chaque dimanche, Popourri Show et prisedeparole.ca nous donnent envie de déguster des histoires, dévorer des pages, savourer les mots enfin gourmets de la littérature. Retrouvez sans attendre toutes les entrevues des autrices et des auteurs sur popourrishow.com ou découvrez tout simplement les nouveautés littéraires du moment sur prisedeparole.ca. CUT FM, Popourri Show. Écoutez le monde autrement, à partir des mots et des sons, des francophonies d'ici et d'ailleurs.
Sur le pont des arts, Nathalie Amar.
Bonjour à toutes et à tous. Elle est poétesse, écrivaine, née il y a une quarantaine d'années dans l'oblast de Kharkiv, une région d'Ukraine qui, en 3 ans de guerre, a été la cible de plus de 20 000 frappes aériennes russes. Derrière la froideur des chiffres, il y a des histoires, une multitude d'histoires. Celles que notre invitée a choisi de raconter, ce sont des histoires de femmes. 40 courtes fictions, terribles et parfois drôles, sur ce que signifie vivre dans un pays en guerre, rester debout malgré les alertes, la perte des proches, l'absence de perspective. Mes femmes, c'est le titre de ce recueil. Et Yulia Ilyuha, son autrice, est avec nous sur le pont des arts. « Bonjour Yulia Iliura.
Dobro dnia.
Merci d'être avec nous sur RFI. Vous êtes accompagnée de votre traductrice Irina Dmitrichine. Bonjour à vous également. C'est un livre si fort qu'on a du mal à le lire d'une traite. Chaque histoire nous projette dans l'expérience intime de ces trois années de guerre. Chacune nous dit avec peu de mots ce que cette guerre a détruit, abîmé. Il a déjà été couronné de plusieurs prix et on en parlera évidemment avec vous. Une autre guerre prend en ce moment la vie de milliers de civils. C'est celle qui sévit dans l'est de la RDC. Bonjour Emmanuel Kouzamba.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Vous êtes en ligne, vous, de Kinshasa. Vous nous parlerez de la mobilisation d'un collectif de graffeurs, une fresque en hommage aux populations de l'est. Et puis le Café Polar du jeudi. Bonjour Catherine Fréchon-Toussaint.
Bonjour Nathalie. Bonjour à toutes et à tous.
Et un coup de cœur aujourd'hui pour un écrivain français, Marin Le Dain.
Oui, je vous parlerai tout à l'heure de cet auteur qui vient de publier un roman noir intitulé Enoua, qui nous emmène dans un des plus beaux endroits du monde, chanté par Jacques Brel.
Veux-tu que je te dise, gémir n'est pas de mise aux marquises.
Voilà les marquises pour décor de notre Café Polar.
RFI sur le pont des arts.
Yulia Iliura, celles que vous appelez vos femmes, ce sont des femmes croisées dans la réalité, ce sont des femmes aussi sorties de votre imagination.
Dans le livre Mes femmes, il y a différentes histoires. Il y a quelques histoires qui me concernent personnellement. Il y a des histoires de vie de mes copines, de mes connaissances. Il y a des histoires que j'ai lues un jour dans les infos, les premiers jours de guerre, que j'ai pensé et réécrit sous forme courte.
Les courts récits que vous écrivez sont marqués donc aussi par votre propre expérience, parce que lorsque la guerre a commencé, vous étiez chez vous, en Ukraine, dans un village proche de Kharkiv. Pourquoi ce choix de raconter la guerre du point de vue des femmes ?
Quand la guerre a commencé, je l'ai accueillie à Kharkiv, dans la ville même, et comme beaucoup d'Ukrainiens, ce matin-là, je me suis réveillée à 5 heures du matin, au bruit des explosions derrière la fenêtre, mon mari aussi, et lorsque je lui ai demandé ce qui se passait, il m'a dit que la guerre a commencé. Après, nous avons mis du temps à attraper notre chatte qui a été effrayée par les explosions. J'ai ramassé nos affaires dans deux sacs à dos, pour moi et pour mon fils. Et au milieu de mes affaires, il n'y avait que deux paires de culottes. Et c'était tous mes vêtements.
Des millions de morts, honoriez-vous, personne n'en parle. Il se passe des dingues au pays de mes remparts. On pense à vous, je sais qu'un jour on s'y rendra. J'ai rêvé dans mon meilleur sans Kagame, sans M23. Des millions de morts à l'est du Congo. Et pourtant personne n'en parle. On envoie nos frères mineurs au combat. Se faire tuer pour du cobalt. Toutes ces richesses nous font du mal. On n'a jamais demandé ça. J'implore le bon Dieu de me faire ainsi. C'est la guerre, je te fais pas dessin. C'est la guerre, je te fais pas dessin. Si j'en parle trop, ils vous tombent des sangs. Et nos mamans se font violer. Ne rentreront peut-être pas à la maison.
Que mon pays va mal, que mon peuple est révolté. Que les diamants profitent à l'Occident, je suis débordé. Je peux pas faire grand chose, écoute nos cœurs qui se brisent. Je me demande d'où vient le problème d'un pays aussi riche. La faute à ceux qui voient leur poche avant la société. Mais c'est l'humain, 70% craque pour le gros papier. Je demande la paix dans le monde comme une miss. Même à Gaza, des mots me ramassent. Un peu d'humanité, c'est la base. Tout n'est que vanité, tout s'efface.
Sur pas de dodo comme système à tanga. Soir, c'est la veillée. Des familles effrayées, j'ai le cœur endeuillé. Quand ce que mon pays peu à peu s'effeuille, faudrait qu'on se réveille. Sur pas de dodo, j'ai l'esprit à l'ouest. À cause de tout ce qui se passe à l'est du pays, les milices ne veulent pas lâcher du lest. Des millions de familles, des enfants y restent. Terre de richesse et de sang, sur ma terre de richesse et de sang. Les îles, les minerais, les mines, les minéraux, le même numéro des crimes ignorés, malgré le sang de nombreux innocents.
Message pour mon pays, c'est le millième. J'ai pas la couleur de peau des minèmes. Alors les GT, faut pas s'agiter quand on me massacre pour des minerais. Congo Mbokaba papa, Congo Mbokaba mama. Mais à Goma j'ai vu des barbares. Les sapeurs ont des gilets pare-balles. pas le Kagame, faut le condamner. Mais aussi faut reconnaître ceux qui dirigent le Congo. N'aime ni le Congo, ni les Congolais.
Des millions de morts, on arrive vous, personne n'en parle. Il se passe des dingueries au pays de mes remparts. On pense à vous, je sais qu'un jour on s'y rendra. J'ai rêvé d'un monde meilleur, sans caca, mais sans M23.
Le monde a tué plus que Hitler, c'est des Congolais donc ça compte pas. Tago Manor qui vous ça bombarde, du Congo tous les jours mon combat. Quand tu es le Mumba, ils nous ont rendu une dent. Chez nous, y'a que des morts, des pleurs et du sang. On meurt pour des diamants, cobalt et coltan. À la moindre escarmouche comme le président.
Ne jamais trahir le Congo, qui vivra verra. Si Kagame n'est pas jugé, crois-moi que Dieu le fera.
Voilà, de grandes voix du rap mobilisées avec ce titre. Free Congo, mobilisation en solidarité avec les victimes de la guerre dans l'est de la RDC. Yulia, il y aura cet engagement, on l'a vu au début de la guerre en Ukraine. C'était très fort, hein, même ici en France. On parlait tout à l'heure des graffeurs de Kinshasa. Eh bien, moi, j'ai en tête, par exemple, à Paris, la fresque de l'artiste Seth, représentant une petite fille, drapeau ukrainien en main, qui écrase de ses pieds, totalement insouciante, les chars russes. Cette mobilisation, elle a été importante pour ceux qui étaient pris dans cette guerre à ce moment-là. Et surtout, est-ce qu'elle est encore d'actualité aujourd'hui?
Bien évidemment, cette aide, cette mobilisation, ce soutien était très important pour l'Ukraine. C'est important pour les Ukrainiens de sentir qu'ils n'étaient pas les seuls à résister à l'agresseur, car l'agresseur est un très grand pays. Et sans l'aide d'autres pays, l'Ukraine n'aurait pas pu tenir et ne tiendra pas. Et cette aide, naturellement, à la quatrième année de guerre aujourd'hui, les gens en Europe ressentent une certaine fatigue du fait que cette guerre continue, et ça aussi c'est naturel, et on peut le comprendre. Et en même temps, nous voyons tous à quel point les événements sont imprévisibles. Et de fait, peut-être l'Europe et l'Ukraine vont rester seules dans cette confrontation avec la Russie. Et aujourd'hui, tout comme au début de la guerre à la grande échelle, nous aurons besoin de mobilisation, d'aide et d'interaction entre l'Europe et l'Ukraine. Aujourd'hui, je vois comme un des objectifs, pour revenir au livre, je vois comme un objectif, enfin, objectif principal de la culture ukrainienne, de la littérature en particulier, de raconter sur toutes les plateformes européennes cette guerre en Ukraine, de rappeler que la guerre en Ukraine continue et que nous avons besoin d'aide, non pas uniquement pour protéger l'Ukraine, mais aussi pour protéger l'ensemble de l'Europe.
Et c'est pour ça que votre recueil Mes Femmes est publié aujourd'hui aux éditions des Femmes. Vous espérez qu'il apporte sa pierre à l'édifice du témoignage?
J'aimerais beaucoup y croire et que mes femmes, par leur voix féminine, raconteraient cette guerre en Ukraine. C'est la raison pour laquelle mes femmes sont anonymes, pour que ces histoires soient plus universelles et que chaque lecteur, non seulement en Ukraine, mais aussi à l'étranger, en lisant ce livre, puisse s'imaginer à la place de ces femmes, car la menace de la guerre est réelle, non seulement en Ukraine, mais aussi malheureusement en Europe.
Alors je laisserai aux lecteurs évidemment la joie de découvrir ces textes par eux-mêmes, mais je voudrais simplement terminer avec la lecture de la fin de l'introduction à ce recueil, sous votre plume donc, Yulia Ilyukha. « Mes femmes, écrivez-vous, s'expriment de manière banale et terrifiante. Mes femmes partagent leur douleur et leur désespoir. Mes femmes croient et attendent. Mes femmes tiennent, même si elles ont du mal. Mes femmes connaissent la valeur de chaque jour. Mes femmes veulent que le monde entier les écoute et les entende. Mes femmes s'efforcent de continuer à vivre envers et contre tout. Mes femmes, dorénavant, elles sont aussi les vôtres. »
D'accord.
Merci. C'est un très beau recueil, sensible et drôle. Et je ne peux évidemment que le recommander à ceux qui nous écoutent. Yulia Ilyukha, merci infiniment d'être passée par les studios de Radio France Internationale.
Je vous remercie beaucoup de votre invitation, pour cette possibilité de parler de ce livre qui, en réalité, est très important pour moi, bien que je n'ai jamais voulu l'écrire. Et je vous remercie de votre soutien pour l'Ukraine.
Merci également à Irina Dmitrychine pour la traduction de cet entretien. C'est vous aussi, Irina Dmitrychine, qui avez traduit ce recueil « Mes femmes » avec Agathe Bonin. Et le livre vient donc de paraître aux éditions des Femmes.
Entends-tu trembler la terre ? Vois-tu ces oiseaux noyés, les cris des chiens éborgnés, hurler leurs sombres prières, elles tournent de travers la terre, où coulent les flaques de sang, tourmente, tourmente. Y a-t-il vraiment plus rien à faire que de s'aimer, se défaire? Y a-t-il vraiment plus rien à croire quand les loups prient le pouvoir dans ce matin?
La playlist RFI de ce mois-ci, Le lever du soleil, Gaby Hartmann et Naïssam Jalal. Sur le pont des arts, voici comme chaque semaine notre rendez-vous avec le Café Polar.
C'est l'heure de Café Polar.
Et alors qu'en France il fait froid, qu'on est en plein hiver, Catherine Fruchon-Toussaint, vous avez choisi de nous réchauffer avec la lecture d'un polar qui se déroule aux îles Marquises.
Mais oui, le soleil, l'eau transparente, le sable chaud. Vous sentez déjà, Nathalie, cette impression de bonheur, de plénitude, de vacances? Eh bien, ne vous trompez pas, parce que les Marquises, à la fois, c'est magnifique, mais ça n'empêche pas le mal de rôder. Et c'est ce que nous allons découvrir avec Marin Le Dain, écrivain de premier plan du roman noir en France, et qui, après le Nigeria, où il avait implanté sa précédente fiction, nous propose cette fois une intrigue en Polynésie française, soit 14 000 km environ de la métropole, autant dire une destination exceptionnelle où tout le monde n'a pas la chance d'aller. J'ai donc demandé à Marin Le Dain comment il avait découvert l'archipel des Marquises.
De manière assez étonnante et surprenante, j'ai été invité en 2016, fin 2016, au salon du livre de Nukuhiva et au salon du livre de Wapo, qui sont donc deux îles qui se font face, qui sont espacées de 16 km au nord de l'archipel. Et j'ai accepté cette invitation.
C'était pour parler d'un de vos romans noirs, mais...
C'était pour parler d'un roman à l'époque qui venait d'être adapté au cinéma avec Isabelle Adjani, Les visages écrasés, donc rien à voir avec les Marquises. J'ai été invité là-bas et... Je suis assez bavard et pour la première fois de ma vie, je crois que je me suis retrouvé sans voix et je suis reparti de là avec une seule idée en tête, c'est de revenir, de lire, de comprendre, d'apprendre le plus possible de cette culture, de ces cultures absolument fascinantes.
Donc vous y êtes retourné ?
Donc j'y suis retourné 3, 4, 5 fois, enfin quand je peux.
Donc un véritable coup de foudre hein, pour Marin Le Dain qui a donc décidé d'écrire un roman noir sur l'île de Nukuhiva en pleine immersion dans la société marquisienne.
Oui, à travers une fiction dont le point de départ est un terrible fait divers, l'assassinat d'une jeune femme, Payotoka, retrouvée morte dans des conditions suspectes. Et pour mener l'enquête, Marin Le Dain imagine un policier, Tepano Morel, qui vient de Papeete et dont la particularité est d'être métis. Il est né en métropole d'une mère marquisienne, mais il n'a jamais mis les pieds sur la terre natale de sa famille maternelle. Autant dire un étranger presque, ce à quoi tenait Marin Le Dain.
Comme presque toujours dans mes romans, j'ai un peu ce syndrome, je ressens ce syndrome un peu de l'imposteur, de je suis un ignorant, je ne suis pas de là-bas, je m'intéresse, mais je suis un peu un ignorant, donc il me faut un point d'entrée. Et Morel est un ignorant. Il est marquisien, alors moi je suis pas, mais vous non plus, mais il nous permet de rentrer un petit peu, de mettre un pied quand même dans la culture marquisienne, et en même temps, parce qu'il va chercher à travers ça l'identité de sa mère, sa propre identité, mais d'un autre côté il est ignorant de la culture, il est ignorant de la langue, ça c'est quand même très important de ne pas connaître sa propre langue, enfin en tout cas la langue de sa mère, qui ne le lui a pas enseignée, et donc en fait c'est un point d'entrée pour moi déjà, en écrivant le roman, et puis ensuite pour vous, quand vous le lisez.
Un enquêteur qui vient de métropole, donc. Est-ce que pour autant, il ressemble à son auteur, Catherine ?
Alors, pas vraiment, mais surtout, la vraie différence entre les deux, ce sont les tatouages. Par exemple, Marin Le Dain en a un très grand nombre sur le corps et qu'il s'est fait faire sur place pour certains, alors que son personnage, Tepano Morel, n'en a aucun sur la peau. Il faut dire aussi que cette tradition culturelle en Polynésie a pendant longtemps été interdite par les colons. C'est ce que nous raconte l'écrivain.
La France prend possession des Marquises en 1842, avec l'amiral du Petit Thouars, pour en faire une zone de passage pour les baleiniers, pour avoir un point d'accès à de l'eau, des fruits frais pour les bateaux de commerce. Et assez rapidement, elle délaisse les Marquises, et elle prend possession, de manière un peu inespérée d'ailleurs, de Tahiti, qui à l'époque était aux mains des Anglais. Et la France laisse les Marquises aux mains des missionnaires catholiques, de la congrégation de Picpus, et un évêque... en 1863, je crois, décide, parce qu'il a beaucoup de mal à les convertir, les marquisiens qui restent, parce qu'il y a malheureusement énormément de décès dans la population, du fait de la variole, du fait des maladies, du fait de l'alcool, etc. Comme il a vraiment du mal à convertir la population, qui finalement est assez libre et prie ses propres dieux, enfin, c'est une catastrophe pour eux, il décide d'interdire toute forme d'expression de la culture. Alors ça veut dire on ne se promène plus nu, on ne parle plus la langue, on apprend le français, un rôle de mission un peu à marche forcée, et donc ils interdisent le tatouage notamment, qui est vraiment une pratique complètement hérétique pour eux, parce qu'elle est une forme d'habit sur des corps nus qu'on ne doit pas montrer normalement. Donc c'est interdit. Alors l'interdiction réelle, elle dure pas longtemps, elle dure 2 ans. Mais en réalité, le tatouage va finalement disparaître et recommencer seulement dans les années 1970, c'est-à-dire un siècle plus tard.
Alors pour revenir au roman intitulé « Énois, Catherine », ce qui veut dire « Terre des hommes », c'est ça ?
Exactement.
Il s'agit d'une enquête pour élucider le meurtre d'une Polynésienne. Et visiblement, même dans ce décor de rêve, les mobiles ne manquent pas pour expliquer pourquoi on a voulu faire taire cette femme.
Hélas non, Payotoka a sans doute été témoin involontaire de pratiques illégales sur son île, soit de trafic de stupéfiants, soit de braconnage, en particulier d'espèces protégées. Parce que malheureusement, oui, cela existe aussi aux Marquises. Marin Le Dain.
Il y a un braconnage et en même temps aussi une conscience séculaire de la nécessité de protéger cet environnement dont ils sont extrêmement dépendants. Là, on parle d'un environnement très proche, hein, c'est-à-dire que quand on est marquisien, je sais pas moi, au XIIe siècle, on sait qu'on peut pas aller voir à 200 km de là s'il y aura quelque chose à manger. On sait que s'il y a plus rien sur l'île, il y a plus rien. Donc il y a tout un tas de traditions, enfin je vais pas en faire la liste, mais il y a tout un tas de traditions qui visent à protéger jusqu'au moment où la colonisation arrive. Et quand on interdit des expressions culturelles, quand on interdit une langue, quand on interdit des pratiques rituelles, voire religieuses, on fait disparaître aussi tout ce qui était ce qu'ils appelaient le tapou, c'est-à-dire tout ce qui était des interdits et en fait qui visait à protéger un environnement en fonction de leurs propres pratiques culinaires, etc. Et donc l'écosystème est brisé à partir de la fin du XVIIIe siècle. Quand arrive la France, ça s'aggrave encore. Et ensuite, on se retrouve effectivement à braconner, à chasser sans trop se poser de questions, et puis avec les moyens modernes, quoi. Alors c'est en train de revenir, ça change, parce qu'évidemment, il y a l'écologie, elle revient aussi, et la conscience écologique est quelque chose qui est venu rappeler tout ça, et qui est venu réveiller aussi un certain nombre de ces pratiques culturelles très fortes. Mais voilà, il y a tout ce mélange.
Alors visiblement, avec ce polar, Marin Le Dain fait aussi le portrait d'une société, Catherine, qui n'est pas épargnée par les dysfonctionnements.
En effet, au cours de l'enquête, il est question de violences sociales, intrafamiliales, d'abus de pouvoir. Et à travers le meurtre de Payotoka, c'est tout un système qui est remis en question. Et l'assassinat de cette femme, finalement, devient presque une métaphore pour Marin Le Dain.
Payotoka... C'est la personne qu'on retrouve morte au début. En fait, c'est le personnage principal du roman. C'est pas l'enquêteur, on s'en fiche de l'enquêteur.
Oh, pas tant que ça.
Oui, oui, mais peu importe l'enquête, c'est elle qui symbolise à la fois son île, qui symbolise ses habitants, qui symbolise la liberté et qui symbolise surtout la puissance. Parce que c'est ce qu'il y a derrière tout ça, c'est qu'elle a été tuée parce que c'était une femme puissante, parce qu'elle revendiquait une liberté qui est celle que revendique aussi son peuple en creux. Et c'est pour ça, finalement, qu'elle a été... Alors, je révèle rien de l'histoire, parce que c'est pas... Voilà, je dis pas qui a tué et qui a fait quoi, mais en creux, c'est ça. C'est cette question de la puissance perdue, de la puissance qui a existé, qui a failli disparaître, qui a été détruite et, par les contacts avec les Européens, par les maladies, par la colonisation, par l'alcool, par la marchandise aujourd'hui. Mais qui revient. Il y a un petit dialogue comme ça dans le livre qui, pour moi, est vraiment le centre du livre. Je révèle rien de l'intrigue en disant ça. C'est ce moment où un jeune tatoueur qui s'appelle Hiku explique qu'il en a marre que son peuple passe pour une victime, pour ceux qui s'y intéressent, parce que la plupart d'entre nous ignorons totalement l'histoire des marquises. Mais donc il y a eu cette période absolument infiniment triste, désastreuse, catastrophique, où ce peuple physiquement a failli disparaître et sa culture a failli être totalement anéantie. Et lui, il dit oui, ok, ça fait partie de l'histoire, mais en fait, ça, c'est l'histoire de la colonisation. L'histoire de mon peuple, c'est ce qu'on était avant, et c'est ce qu'on va redevenir après, parce qu'on avance. Voilà, on va pas s'arrêter là et se traîner ça pendant des siècles et des siècles. On l'a vécu, on a failli y passer, c'est pas le cas. Aujourd'hui, on avance. Et c'est ce qu'ils font.
La Polynésie française regarde vers son avenir, nous dit Marin Le Dain. Et avec son roman, Catherine, nous aussi, on regarde les marquises. On apprend à mieux connaître cette part de nous-mêmes. Parce que si géographiquement nous sommes éloignés les uns des autres, en tout cas l'écrivain fait tout pour nous rapprocher.
Oui, pour lui, c'est vraiment très important de nous donner envie de mieux connaître cette région du monde. Bon, à vrai dire, moi je suis déjà conquise. Hein. Je suis prête à partir, il reste à trouver l'occasion d'y aller. Je vous emmène si vous voulez, Nathalie.
Allez, c'est parti.
En tout cas, il est à ce point impliqué qu'il a commencé d'apprendre la langue marquisienne, dont il nous dit ici quelques mots. Marin Le Dain.
Mea kanahao to oe pohu e iya. La vie est belle.
Ah, c'est pas mal ça.
La vie est belle ces temps-ci.
Belle cette langue.
Et oui, et la vie est belle en effet ces temps-ci. C'est une magnifique conclusion de Marin Le Dain qui vient donc de publier Enoua, un roman publié à la Série Noire. Et pour tout savoir sur ce livre, à écouter le grand entretien que m'a accordé l'auteur et qui est disponible sur le podcast Café Polar.
Et demain dans Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint, vous recevrez Ivy Pochoda pour son roman Dios et Florida, paru chez Globe. C'est le road trip de deux anciennes détenues dans une Amérique violente, fiction féministe qui fait un peu penser à Thelma et Louise ou encore à Fight Club. Sur le Pont des Arts avec Pierre Plantier à la réalisation, Damien Roucou pour la programmation. Rendez-vous demain 15h10, temps universel. On sera avec le guajiro chic Raoul Paz et son dernier album dont il nous interprétera quelques titre en live. À suivre sur RFI, le journal en français facile, et dans 10 minutes, Radio Foot International. À demain.
rappelle à ton souvenir.
Ay, maman, voilà le voyage.
Adra ben la cosa, adra ben la cosa, ding et dong.
Non,
ding et dong.
Écoutez la planète chanter.
On a tombé le haut.
CIUT 89.5 FM, celebrating 35 years as the sound of your city.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
Le département d'études françaises de l'Université de Toronto est fier d'annoncer son tout premier gala d'excellence. Un événement visant à reconnaître les réalisations exceptionnelles des étudiants, du corps professoral et du personnel. Cette soirée de célébration se tiendra le vendredi 25 avril à Father Maiden Hall, St. Michael College, de 18h30 à 21h. Au programme, remise de prix, discours inspirants et opportunités de réseautage. Gala d'excellence du département d'études françaises, Université de Toronto. 25 avril 2025, au Father Maiden Hall, St. Michael College, 100 St. Joseph Street, à Toronto. Plus de détails sur popourishow.com. Premier gala d'excellence du département d'études françaises sur notre campus, Université de Toronto. Un événement qui met en lumière l'impact de l'éducation, de la recherche et de l'engagement communautaire et célèbre les contributions exceptionnelles de nos étudiants, enseignants et membres du personnel. Alors, soyez-y!
Je suis la langue française, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que l'on me parle et c'est pas ce que l'on m'écrit. Je lègue 26 lettres pour l'art et la poésie, pour styliser les romans, les mots doux et les scénarios. Sers-toi de moi pour te battre et protéger les valeurs, pour créer la connivence entre auditeur et locuteur. Parce que la diversité éloigne la monotonie. Mali, Mississippi, Canada, Cambodge, Haïti. J'accompagne les nobles causes de façon pacifique. Je suis rythmique, philosophique, pas si vite. Libre, évolutive, la langue vie, révolte, danse. Et le livre des livres, et livre des livres de pensée. Et je cohabite avec les dialectes et d'autres langues. Ma structure grammaticale est à rapport à la novlangue. Je suis le développement durable, l'exemple d'écologie. Je suis la langue française, je suis la francophonie.
Bonjour et bienvenue sur Popourri Show, c'est UTFM, votre magazine de la francophonie. L'ingénieur du son DJ Devera, accompagné de réalisateurs, animateurs de RFI, France 24 et TV5 Monde. En mon absence, Popourri Show CUTFM vous propose une sélection des meilleurs magazines et podcasts les plus écoutés par les auditeurs de RFI à travers le monde. Vous entendrez des voix de couleur tropicale, l'émission des musiques afro sur RFI depuis 30 ans. Des débats sur l'intelligence artificielle où des experts reconnus abordent les enjeux de cette nouvelle technologie qui est en train de révolutionner notre monde. Un panorama de la presse internationale sur les sujets d'actualité. Sur le pont des arts, 50 minutes pour découvrir, partager, s'étonner, s'évader. Littérature et cinéma, stand-up ou série, peinture ou graphe, musique et slam. Tous les arts sur le pont, sur tous les continents. C'est le nouveau rendez-vous de RFI consacré à la culture avec les reportages, des chroniques et des correspondants. Et enfin, je vous invite à découvrir toutes les activités, les rendez-vous, les nouveautés littéraires, les bons plans de nos partenaires en visitant chaque semaine popourishow.com. Popourri Show, 38 ans déjà, en partenariat avec Radio France Internationale, TV5 Monde et France 24. Reportages, chroniques et des émissions originales à écouter absolument ou réécouter sur popourishow.com. CUT FM, Popourri Show. Écoutez le monde autrement à partir des mots et des sons des francophonies d'ici et d'ailleurs.
culture d'Haïti et d'ailleurs, croisons nos regards dans Causer Kilti, le rendez-vous des cultures en Haïti, tous les dimanches après-midi à 1h33 et 8h33 sur RFI.
Il est 14h à Paris, 1h de moins en temps universel, 9h à Port-au-Prince et à Washington.
RFI Midi, Clotilde Dumais.
La dernière demi-heure de RFI Midi sur le continent américain et cette inquiétude grandissante en Haïti face à la crainte de voir l'ensemble de la capitale Port-au-Prince tomber dans les mains des gangs armés dans l'indifférence internationale. On va revenir sur la situation dans un instant. Dans ce contexte sécuritaire de plus en plus difficile, les Haïtiens se raccrochent malgré tout à la culture. Le Festival international de jazz de Port-au-Prince doit débuter demain. On écoutera Milena Sonder, la directrice générale de la Fondation Haïti Jazz. Les réactions internationales au lendemain de l'appel téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Le président russe n'a accepté qu'une trêve très limitée. Réaction notamment sur RFI de Stéphane Dion, l'ambassadeur du Canada en France et à Monaco.
C'est quand même assez inédit, je crois, qu'un cessez-le-feu porte sur quelque chose aussi pointu. Et là, on va cesser de bombarder les infrastructures énergétiques. Bon, c'est déjà ça, mais c'est pas ce que nous souhaitions.
Stéphane Dion qui revient également sur le rapprochement du Canada avec l'Union européenne face à la présidence Trump. Interview à suivre. Et puis l'actualité des Outre-mer. Bonjour Tessa Gromane.
Bonjour Clotilde.
À la une, ces nouveaux équipements pour lutter contre le narcotrafic en Martinique.
Le ministre des Outre-mer a annoncé l'arrivée prochaine de 2 radars et 1 scanner pour renforcer les moyens de contrôle du trafic de cocaïne sur terre comme sur mer.
À tout à l'heure Tessa, mais d'abord l'actualité internationale.
RFI Midi.
Bonjour Paul Longsin-Spinelli.
Bonjour Clotilde Dumais, bonjour à tous.
Et ce nouveau bras de fer qui ne va pas arranger la relation entre la justice américaine et Donald Trump.
Le président américain veut contester la décision d'un juge fédéral qui souhaite freiner le démantèlement de l'USAID, cette agence américaine de développement international indépendante du gouvernement. Elle est devenue une cible récurrente du dirigeant républicain depuis son arrivée à la Maison-Blanche, mais aussi d'Elon Musk, le milliardaire qui est chargé de mener les immenses coupes budgétaires, sauf qu'un magistrat se met en travers de ce binôme, Ablajounaïdi. Hier, il a dénoncé une attaque contre la Constitution.
Et oui, le démantèlement d'une des principales agences humanitaires dans le monde, USAID, viole probablement la Constitution américaine. Tel est l'avis du juge fédéral saisi par des employés démis de leurs fonctions. Le magistrat ordonne que près de 25 000 personnes récemment embauchées soient réintégrées et l'accès au courriel restauré pour tous les employés de l'agence. Il interdit aussi d'engager tout autre travail lié à la fermeture du USAID. Pour la première fois, Elon Musk, à la tête du DOGE, la commission responsable de la purge au sein de l'administration, est officiellement mise en cause. Le juge estime que le milliardaire est plus qu'un simple conseiller de Donald Trump et qu'il agit de facto comme un ministre, mais sans avoir passé le processus de nomination prévu par la Constitution, à savoir la confirmation par le Congrès. Alors difficile de savoir si les décisions du juge seront immédiatement suivies des faits. Donald Trump, sur Fox News, en tout cas a annoncé qu'il fera appel de ce jugement.
Merci Ablajounaïdi, service international d'RFI. Après Vladimir Poutine hier, Donald Trump va redécrocher son téléphone aujourd'hui pour appeler cette fois Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui a averti ce matin. Selon lui, il ne faut faire aucune concession à la Russie en matière d'aide militaire à l'Ukraine. Pourtant, le président russe avait prévenu Donald Trump hier, il n'acceptera un cessez-le-feu complet si et seulement si les alliés de Kiev cessaient leur soutien armé. Pour le moment, le Kremlin a seulement accepté une trêve limitée aux frappes sur les infrastructures énergétiques. Pour les Européens, Julien Chavannes, ce n'est absolument pas suffisant.
Pas d'accord sans les Ukrainiens. Emmanuel Macron et Olaf Scholz l'ont répété hier soir à Berlin. Le président français et le chancelier allemand sur la même ligne pour poursuivre l'aide militaire à l'armée ukrainienne alors que Vladimir Poutine réclame l'arrêt de l'aide occidentale. La priorité est bien de livrer toujours plus d'armes à Kiev. Tobias Billström est le ministre des Affaires étrangères de la Suède.
Je voudrais souligner la nécessité de veiller à ce que les fournitures militaires puissent parvenir à l'Ukraine afin d'aider ce pays qui se bat actuellement pour notre liberté et notre sécurité.
Certains pays de l'UE veulent aller plus loin dans leur soutien à Kiev. La Suède, la Finlande, le Danemark, la Lituanie et l'Estonie demandent dans une lettre ouverte à la Commission d'avoir une vraie feuille de route pour l'adhésion de l'Ukraine, et cela malgré l'opposition de la Hongrie et de la Slovaquie. À Londres, Keir Starmer a été plus bienveillant sur l'initiative de Donald Trump. Le Premier ministre britannique a salué les progrès réalisés par le président américain en vue d'un cessez-le-feu. Mais aujourd'hui encore, les Européens sont tenus à l'écart des négociations directes entre Washington et Moscou.
Julien Chavanne, et de son côté, le Kremlin a accusé ce matin Kiev d'aller à l'encontre des efforts de la Russie et des États-Unis, mettant en cause une attaque nocturne contre un dépôt pétrolier. L'armée russe, elle aussi, a mené des frappes sur des bâtiments civils ukrainiens dans la nuit.
Les espoirs de maintien de la trêve s'envolent à Gaza.
970 personnes sont mortes en 48 heures dans la bande terrestre après deux nuits de reprise des frappes israéliennes. Un carnage, le bruit des bombes, une atmosphère qu'a déjà vécu pendant 15 mois Meïssara Moukaïmar. Avant la trêve signée donc en janvier entre le Hamas et Israël. Cet agronome de Gaza, il est diplômé d'une université française. Il rêve d'ailleurs de venir s'installer en France avec sa famille. Mais pour le moment, il essaie juste de survivre, comme il l'a confié à Amira Suilem.
Malgré les bombardements qu'il qualifie de cauchemars et malgré les ordres d'évacuation de l'armée israélienne, Meïssara Moukaïmar a décidé de rester à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, avec sa famille. Pas question d'être déplacé une troisième fois, dit-il.
C'est très difficile de faire un déplacement une autre fois. L'expérience de déplacement, elle était très très mauvaise pour moi et pour tout le monde, surtout pour mes enfants. Aucune place à la bande de Gaza est sécurisée. Toutes les endroits sont vraiment sommés à des bombardements.
Ce père de quatre enfants ne voit plus qu'une issue, quitter Gaza. Agronome, diplômé de l'université Paris-Saclay, lui qui a été accepté dans un programme académique à Nantes, veut rejoindre la France avec sa famille cette fois-ci.
Je cherche l'avenir de mes enfants. J'ai une fille qui est normalement en troisième année maintenant de l'architecture. Cette année, c'est la deuxième année et elle ne peut pas aller à l'université parce qu'ils ont bombardés, ils ont détruit toutes les universités et les institutions académiques à Gaza.
La trêve a volé en éclats depuis 24 heures et pour Meïssara Moukaïmar et sa famille, c'est le rêve d'une nouvelle vie en France qui s'éloigne un peu plus. Amira Suilem, Ramallah. RFI.
Accusé par le Hamas d'avoir tué un travailleur étranger de l'ONU et blessé 5 autres personnes dans une frappe ce matin, l'armée israélienne dément avoir bombardé leur complexe des Nations Unies. Le complexe des Nations Unies.
Il est 14h07 à Paris. On termine ce journal, Paul, avec une figure de l'électro en France.
Oui, Étienne de Crécy qui revient avec un nouvel album. Il s'appelle Warm Up et c'est José Marinho qui vous le fait découvrir. Every night
to find a fight. Nouvelle aventure musicale pour Étienne de Crécy, DJ et producteur de musique électronique français de 56 ans. Warm Up, c'est un disque plutôt pop et surtout entièrement chanté. Étienne de Crécy a d'abord été membre du duo Motorbass formé avec Philippe Sdar. Puis en solo, il a fait danser toute la planète en 1997 avec son album survitaminé Super Discount. Pour son nouveau projet, il réunit un bataillon d'interprètes hétéroclites, les pop stars britanniques Alexis Taylor du groupe Hot Chip et Damon Albarn de Blur, mais aussi des rappeurs chanteurs talentueux, presque tous inconnus au bataillon, comme Sugar Pete ou ici Frank Leon sur ce morceau au groove irrésistible. Avec 11 titres, Étienne de Crécy réussit l'exploit de réaliser un disque cohérent et chaleureux malgré la diversité musicale de ses invités.
Oui. Le survitaminé Étienne de Crécy pour terminer ce journal. Je vous repasse la main Clotilde Dumais.
Et Paul Lonsin Spinelli pour ce journal.
RFI Midi. Cap-Haïtien, 100.5 FM.
à Port-au-Prince, ce n'est qu'une question d'heures, selon l'agence Alter Press, avant que les gangs armés ne s'emparent totalement de la ville. 85% de la capitale haïtienne est aux mains des gangs et seuls quelques quartiers sont encore épargnés. Bonjour Anne Verdaguer.
Bonjour.
La presse parle d'une population laissée à l'abandon.
Oui, dans son article du Miami Herald, notre consoeur Jacqueline Charles a recueilli des témoignages qui sont édifiants pour décrire la situation sur place. Ces deux dernières semaines, la situation est devenue insupportable dans la capitale haïtienne. Selon Pierre Espérance, un défenseur des droits humains, la ville peut tomber à tout moment, poursuit-il. La journaliste décrit une situation terrible, une ville en prise entre les hurlements et les tirs d'armes, les gangs armés et l'exode massif de la population, entre l'anxiété et le silence. Les quartiers sont vidés un par un, les maisons brûlées, les commerces pillés. 60 000 personnes ont fui en un mois, selon l'Organisation internationale pour la migration. Les habitants ne savent pas où aller, la population se sent abandonnée. C'est aussi ce que décrit Franz Duval dans Le Nouvelliste. Que faire quand on ne peut rien faire, se demande le rédacteur en chef du journal. Chaque Port-au-Princien, ceux qui vivent dans les derniers quartiers, non encore attaqués par les gangs, se posent cette question en échafaudant des plans, en se demandant combien de temps il leur reste avant de connaître le même sort que les autres. Ailleurs, pas un mot, pas un sitting, pas une manifestation, poursuit-il. Les figures de la diaspora haïtienne sont aux abonnés absents. Même chose pour l'opposition, silencieuse elle aussi, tout comme la communauté internationale. Aujourd'hui, même l'ingérence est en vacances, selon Franz Duval. Alors que faire ? Eh bien rien et attendre. Ce n'est pas du défaitisme, mais une façon de cultiver l'espoir et l'espérance.
Sur le terrain, un policier kényan, un membre de la mission multinationale de sécurité, a été blessé à Kenskoff lors d'un échange de tirs.
Oui, la situation sécuritaire dans ce quartier de la capitale demeure préoccupante, peut-on lire dans Gazette Haïti, et la population vit dans une tension constante. Le journal rappelle qu'il y a quelques semaines, un militaire haïtien avait déjà perdu la vie à Kenskoff et l'espoir d'un retour à l'ordre s'amenuise au sein de la population de jour en jour. Dans ce contexte, les autorités sont accusées de regarder ailleurs et l'agence de presse Alter Press se pose la question, où est le président du conseil présidentiel de transition ? Celui-ci est accusé de laisser le chaos s'installer alors que Port-au-Prince agonise sous l'emprise des gangs, que Delmas 32 lutte pour sa survie et que les quartiers tombent comme des dominos, souligne l'éditorialiste Pierre Legros. Fritz Alphonse Jean, le président du CPT, préfère s'envoler en hélicoptère pour participer aux festivités de la Saint-Joseph à Fort-Liberté.
Alors justement, au milieu de ce chaos, la culture tente malgré tout de résister, notamment avec le Festival international de jazz de Port-au-Prince, le Pape Jazz qui doit faire son retour. La 18e édition doit normalement débuter demain jusqu'à samedi. Il était initialement prévu en janvier ce festival, mais il a déjà dû être reporté en raison du climat sécuritaire. Malgré les défis, la Fondation Haïti Jazz reste fidèle à son engagement, montrer une autre image d'Haïti, accompagner les artistes, faire rayonner la culture et prouver que même dans ces conditions actuelles, eh bien la musique et l'art peuvent encore rassembler. Milena Sandler, la directrice générale de la Fondation Haïti Jazz, s'est confiée au correspondant de RFI à Port-au-Prince, Peterson Luxama.
Cette année, le contexte est pire, je dirais, que l'année dernière. Et en fait, on a réduit, normalement le festival est sur 8 jours, et la dernière édition qu'on a pu faire dans son format normal, c'était en 2021. Cette année, nous sommes sur 3 jours et 2 jours de grande scène au Caribé Hotel, qui est un endroit sécurisé. On a la police nationale et la Politour qui, comme d'habitude, nous soutiennent. Malgré ce contexte d'insécurité, il nous semble important d'offrir un moment de convivialité et d'espoir à tout le monde, quoi, au public en général.
Comment cette édition du Pape Jazz se distingue-t-elle des précédentes, que ce soit en termes de programmation, de format ou d'innovation ?
On est sur donc 3 jours. On a beaucoup d'ateliers qu'on espère pouvoir faire à l'Institut français pour certains, d'autres au Centre culturel Brésil-Haïti. Donc, on fait des ateliers comme toujours. Il faut savoir que cette année, ce n'est pas un festival international. C'est la première fois en 18 ans que nous avons un festival qui n'invite personne de l'étranger. C'est un festival où on va montrer que nous avons aussi beaucoup de talents locaux. Donc c'est un festival avec des musiciens et des musiciennes qui viennent seulement de Port-au-Prince. On a 2 grandes scènes, ce qu'on appelle donc les grandes scènes, avec 3 concerts à chaque fois, chaque jour. Et puis, on a un kick-off cette année aussi. Donc, le jeudi 20, on fait une soirée un peu différente avec DJ, avec un artiste comme James Germain qui est de passage en Haïti. Donc, on en profite. En termes de programmation, on parle des artistes locaux, pas nécessairement de jazz, mais qui ont fait un travail justement pour apporter un peu de jazz. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé cette édition Pap Jazz et Top. L'idée, c'est d'insuffler une touche jazz à la musique locale. Une grande partie des artistes programmés s'est prêtée à cet exercice, à travailler un petit peu leur répertoire pour en faire quelque chose un peu jazzé. Nous avons également, en termes d'apport, cette année particulièrement, nous avons un mur de l'engagement, donc un commitment wall, des espaces où les musiciens, les festivaliers vont pouvoir inscrire leur engagement citoyen pour leur pays, pour leur ville, pour leur quartier. Ça sera retransmis, le festival, ces grandes scènes, en province, puisqu'on peut pas y aller, mais on sera donc à Jacmel, on sera au Cap-Haïtien également, on sera à Las Terrenas en République dominicaine, on sera également en Guadeloupe et certainement en Martinique, peut-être à Montréal.
Quelle est l'importance de maintenir un événement culturel comme le Pop Jazz dans un contexte aussi difficile et quel message souhaitez-vous envoyer à travers cette édition?
Le message qu'on veut envoyer, c'est que on est dans la résistance, on résiste. C'est important, c'est un engagement que nous, Fondation Haïti Jazz, avons pris il y a 18 ans de faire ce festival. Donc pour nous, c'est important de résister et de continuer à offrir un moment de convivialité à tout le monde, au public, à nos équipes, aux musiciens. C'est un moment de partage.
Non rendez-vous votre yo chanter matangoué vous dit.
Milena Sandler, la directrice générale de la Fondation Haïti Jazz, qui était interrogée par Peterson Luxama.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Dans l'actualité aussi, ces centaines de manifestants au Venezuela pour demander la libération des 238 migrants envoyés, Anne, par le président américain Donald Trump dans une prison salvadorienne.
Oui, à l'Universal nous apprend que 91% des Vénézuéliens estiment que Donald Trump agit à l'encontre des droits humains. Et pour illustrer ce propos, dans le Boston Globe aujourd'hui, ce témoignage de la mère d'un jeune Vénézuélien, Joe, âgé de 17 ans, sans papier et arrêté alors qu'il se rendait à son travail sur un chantier dans la ville de Lewiston, dans le Maine. Elle a reçu un appel d'un agent de l'immigration lui expliquant que son fils allait être expulsé au Salvador. Si vous voulez, vous pouvez vous aussi vous rendre, mais il sera expulsé de toute façon, lui a dit l'officier. Depuis son arrestation, sa famille n'ose plus sortir de chez elle, de peur elle aussi d'être arrêtée. Sa mère, dans un sanglot, explique que l'administration Trump veut détruire les familles de migrants. Les parents sont aux États-Unis depuis une dizaine d'années. Les deux jeunes de la famille des citoyens américains, Joe, est en transit dans un centre de rétention pour mineurs à New York, à près de 500 km de sa famille. C'est effrayant, je n'ai jamais vu ça, témoigne son avocat.
Anne Verdaguer pour la revue de presse.
RFI Midi.
Ce n'est pas suffisant. Voilà ce que fait comprendre l'ambassadeur du Canada en France et à Monaco après l'annonce par Washington et Moscou d'une trêve limitée de 30 jours sur les infrastructures énergétiques en Ukraine. Trêve annoncée après l'appel téléphonique hier entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Sur RFI, Stéphane Dion réagit aux conclusions de cet échange. Il évoque également la relation compliquée entre le Canada et le président américain et le rapprochement des Canadiens avec les Européens. Stéphane Dion, interrogé par Arnaud Pontus.
C'est mieux que rien, c'est déjà ça, mais c'est quand même assez inédit, je crois, qu'un cessez-le-feu porte sur quelque chose aussi pointu, quelque chose d'essentiel. Mais cessez-le-feu, d'habitude, c'est surtout, on cesse le feu.
Oui.
Et là, on va cesser de bombarder les infrastructures énergétiques. Bon, c'est déjà ça, mais c'est pas ce que nous souhaitions.
Oui, c'est mieux que rien. Dans le même temps, la Russie exige la fin du réarmement de l'Ukraine et l'arrêt de l'aide occidentale. Est-ce que cette condition est acceptable?
Elle est inacceptable pour le G7, le Canada, pour la France. Tout le monde sait très bien qu'il faut appuyer l'Ukraine, qui est le pays qui est agressé. On n'est pas neutre dans cette affaire. Il y a un agresseur, le président Poutine, et il y a un pays qui se défend courageusement et qui, en se défendant, défend la démocratie.
Vous avez été surpris par l'attitude du président Trump vis-à-vis du président Zelensky et dans l'ensemble de cette affaire?
Bien, que le président Trump veuille la paix, on est avec lui. Mais pour négocier avec Poutine, il ne faut pas lâcher tout sans rien obtenir en échange.
Le président Trump a été faible vis-à-vis du président Poutine ?
Il doit comprendre que pour négocier avec Poutine, il ne faut pas lui lâcher des choses sans contrepartie. Je pense que c'est très important pour la suite des choses.
Stéphane Dion, venons-en à cette visite du nouveau Premier ministre du Canada, Mark Carney. Il a réservé sa première visite à l'étranger à l'Europe, Paris et Londres. C'était au début de la semaine, lundi. Est-ce qu'il faut y voir un message de défiance vis-à-vis des États-Unis ?
Un message que le Canada veut diversifier ses relations commerciales et renforcer ses relations économiques, géostratégiques avec l'Europe.
Le Canada ne va pas demander l'adhésion à l'Union européenne. Non, parce qu'on a vu un sondage, hein, au Canada, vous l'avez vu comme moi, il vous fait sourire. Sondage qui indiquait que 44% des Canadiens étaient favorables à l'idée de rejoindre l'Union européenne.
C'est aussi une réaction à ce qui se passe avec le président Trump qui parle d'annexion du Canada, etc.
Oui, le Canada veut renforcer ses liens avec des alliés fiables, a dit le Premier ministre.
Ben, Mark Carney. On veut des alliés qui respectent les traités.
Oui. Parler d'alliés fiables, ça veut dire en creux, les États-Unis ne sont plus un allié fiable.
Ben,
ou plus un allié du tout.
Sur certains points, on a certainement des questions à se poser. Le président Trump, avait signé un accord de libre-commerce avec le Mexique et le Canada qui prévoyait qu'il n'y aurait pas de tarifs. Et là, il met des tarifs.
Des barrières douanières, oui.
Oui, des barrières douanières. Nous, on veut un allié qui respecte les traités, comme la France, elle respecte les traités. C'est ce que nous voulons et nous demandons la même chose du président des États-Unis.
Mais est-ce que vous savez ce que les États-Unis demandent au Canada ?
Il dit que le fait que nous ayons un surplus budgétaire prouve que les États-Unis subventionnent le Canada et que c'est injuste pour les États-Unis. Alors, ce qu'il faut demander au président Trump, c'est pensez-vous que les Américains achètent les produits canadiens pour nous faire plaisir ou parce que c'est rentable pour leur porte-monnaie?
C'est
ça qu'on essaie de faire comprendre au président Trump, parce que les deux économies sont tellement imbriquées ensemble. Oui. Vous savez que les États-Unis exportent plus au Canada qu'à la Chine, au Japon, au Royaume-Uni et à la France réunis. Alors, quand ils nous frappent, ils se frappent eux-mêmes, et ils pénalisent leurs consommateurs et leurs entreprises.
Et dans l'autre sens, monsieur l'ambassadeur, 75% des exportations canadiennes vont aux États-Unis. Est-ce que le Canada peut tenir le choc de cette guerre commerciale ?
On va le faire. Nous, on est des joueurs de hockey. Face à nous, on jette les gants, ce qui est une expression de hockey, eh bien nous, on relève le gant. C'est une expression française.
Oui.
Donc, on souhaite pas cet affrontement. Mais au bout du compte, ce qui va se produire, je crois, c'est que les Américains eux-mêmes vont infléchir dans le bon sens les orientations de leur président.
Quand le nouveau Premier ministre du Canada, d'un mot, va-t-il parler à Donald Trump ? Est-ce que c'est prévu ?
Quand le président sera prêt, le Premier ministre veut bien lui parler, bien sûr. Mais vous savez, il faut le faire dans le respect mutuel. Nous, on parle du président des États-Unis, ils doivent parler du Premier ministre du Canada.
Il n'y a pas de respect mutuel.
Il fait une blague plate, comme on dit au Québec. Il n'arrête pas d'appeler notre Premier ministre gouverneur, comme si on était le gouverneur d'un État américain. Il ne faut pas insulter ses homologues en diplomatie. On ne fait pas ça. Il respecte le président Poutine, qui est pourtant pas un ami très proche, c'est moins qu'on puisse dire. Alors, il pourrait respecter aussi le Premier ministre du Canada.
Stéphane Dion, l'ambassadeur du Canada en France et à Monaco, invité d'Arnaud Pontus sur RFI. Entretien complet à retrouver sur notre site internet et notre application Pure Radio. Il est 7h23 à Mexico. Des corridas sans violence. La capitale du Mexique vient de changer les règles. Il sera désormais interdit de blesser ou de tuer le taureau. Cette mesure a été approuvée hier par la quasi-totalité des législateurs du gouvernement de la ville. Elle devrait entrer en vigueur d'ici quelques mois. Depuis des années, la ville de Mexico tergiverse sur ce sujet. Les corridas avaient été interdites une première fois en 2022, puis la décision avait été révoquée par la Cour suprême un an plus tard. Cette fois-ci, il s'agit donc d'une sorte de compromis, mais qui ne plaît pas aux pro-corridas. Ils ont manifesté et bloqué le centre de la capitale. Reportage de Gwendolina Duval.
Encadrés par la police qui bloque la circulation, des dizaines de manifestants se sont assis au milieu d'une artère principale de Mexico. Les passionnés dénoncent un acharnement politique sur la corrida. Isabelle Carrera.
Soy taurina desde los 4 años.
Je suis fan de tauromachie depuis mes 4 ans. Ils vont à l'encontre des libertés individuelles de chaque personne en décrétant ce que l'on peut voir ou non. Les politiques devraient être beaucoup plus préoccupés par la violence du pays et ne pas s'opposer à une tradition pleine de valeurs.
Está lleno de valores.
Selon les nouvelles règles, seul l'usage des capes, capotés et muletas sera autorisé.
Les cornes du taureau seront couvertes, les épées et banderilles interdites. Blesser l'animal sera susceptible d'amende. Rodri Arriega soutient que ça n'a pas de sens. Le jeune toreo se dit extrêmement triste.
Ces taureaux de combat vont mourir dans des abattoirs anonymement. C'est lâche. Cette nouvelle idéologie de vouloir humaniser les animaux nous déshumanise totalement. Et demain, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'en prendre à la pêche sportive, à la chasse ou à l'équitation?
La corrida reste légale et pratiquée dans de nombreux autres États au Mexique. La capitale fait figure d'exception. En 2017, elle avait inscrit dans sa constitution la reconnaissance des animaux comme des êtres sensibles. Gwendolina Duval, Mexico, RFI.
RFI Midi.
L'actualité des Outre-mer avec vous, Tessa Groman. Deux radars et un scanner doivent donc arriver prochainement en Martinique.
Oui, pour lutter contre le trafic de cocaïne. Annonce de Manuel Valls, le ministre des Outre-mer, en visite dans l'île. Des équipements nécessaires pour dissuader les trafiquants d'utiliser la Martinique comme zone de rebond. Manuel Valls au micro de Pierre-Yves Honoré.
La Martinique, comme la Guadeloupe, est une porte d'entrée du trafic de cocaïne vers l'Europe. Donc il faut agir en mer, avec encore plus de puissance, dans le ciel, et il faut des moyens supplémentaires en termes d'avions, et puis évidemment sur terre. Il faut contrôler encore davantage grâce aux radars, grâce aux drones et aux scanners. Et après, il faudra une montée en puissance des moyens de surveillance air et maritime.
Manuel Valls qui quitte ce soir les Antilles après 6 jours de visite. On reste en Martinique, une île exposée au risque de séisme. C'est pourquoi les élèves du lycée Schœlcher à Fort-de-France ont participé hier à un exercice de simulation avec 3 comédiens et un scénario qui les plaçait en situation d'urgence. Reportage.
La terre tremble. Une simulation de séisme est lancée et il est demandé aux élèves et à l'assistance de réagir pour se protéger. Ce jeune lycéen a choisi un angle.
Il y avait des murs par hauteur, je me suis dit que c'était solide et j'ai mis une chaise sur ma tête afin de me protéger des débris.
Plusieurs jeux en sollicitant les personnes présentes ont été proposés. Cette lycéenne s'en réjouit.
J'ai beaucoup aimé parce que c'est important de sensibiliser les jeunes générations à propos des séismes. Je ne sais pas trop comment réagir.
La sensibilisation sur le séisme est une problématique très importante dans la vie du lycée. Didier Marmont, le proviseur.
C'est un sujet qui touche tout le monde et notamment les établissements scolaires. Imaginez qu'il y ait un tremblement de terre. Il faut qu'on soit prêt.
La simulation est un élément fondamental de la prévention.
Un reportage de Manuel Larade. Le dernier séisme d'ampleur en Martinique a eu lieu en 2007, une magnitude de 7,4 sur l'échelle de Richter. Éric Coury, l'ex-PDG de la compagnie Air Antilles, sera fixé sur son sort le 20 mai prochain. Il comparaissait hier devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, accusé d'avoir frauduleusement bénéficié des aides de chômage partiel pendant le Covid. Le procureur a requis 2 ans de prison et 100 000 euros d'amende. En Guyane, le taux de mortalité des tortues vertes inquiète. La saison des pontes vient à peine de commencer et le nombre de cadavres retrouvés sur les plages est proche du bilan de l'ensemble de l'année 2024. Un phénomène que nous décrypte Amandine Bordin, coordinatrice au sein de l'association Réseau Échouage.
Il est expliqué par des captures accidentelles dans les filets de pêche, par des collisions. Donc il y a plus de 50% des mortalités là qui sont dues à des activités humaines. Il peut y avoir aussi des maladies et puis des morts naturelles, bien évidemment. On a recensé beaucoup de femelles sur les plages de Rémire et de Cayenne cette année. Donc ça peut aussi être lié à un effectif de femelles qui viennent pondre qui est plus important que les années d'avant et puis aussi dû à plus de signalements. Mais quoi qu'il arrive, c'est quand même inquiétant puisque les menaces sont très présentes en Guyane pour cette espèce-là.
Propos recueillis par Guyane la Première. Bonne journée.
Merci beaucoup Tessa Groman. Allez, il est presque 13h30 en temps universel. On arrive à la fin de ce RFI midi. On se quitte avec un peu de musique. James Germain, chanteur haïtien justement invité du festival Pap Jazz dont on parlait tout à l'heure à Port-au-Prince. Cafou Minoui sur RFI.
Pour chaque jour, chale soleil change fini. Nan rendez-vous la nuit, nan bat la vie cochon bat cuit. Nan cal pour mettre minuit, on est l'espère Kabicha. Kabicha mette minuit, toute ma petite cabane en fait noir. C'est le grand pampan de palais, c'est le palais grimpé, pétard, c'est l'éclair et prend la peau. C'est le nec, c'est rien, n'est qu'à t'en tomber, ma cabine pour
James Germain. On se quitte donc pour ce RFI Midi. Yann Aliguin était à la réalisation, Emmanuel Klotz à la rédaction en chef. Dans un instant sur RFI, c'est De Vive Voix avec Pascal Paradou. Bonne journée.
Eh oui, Popori Show et CUTFM remercient chaleureusement le Comité international pour la promotion du créole et de l'alphabétisation, KEPKA, et le Mois du créole à Montréal pour les deux prix de reconnaissance dans le cadre de nos émissions spéciales Mois du créole édition 2022. Et oui, nous sommes extrêmement honorés de recevoir cette reconnaissance. Le KEPKA, un organisme à but non lucratif légalement constitué, qui a vu le jour à Montréal le 13 avril 1997, a pour mission de défendre et de mettre en valeur les langues et les cultures créoles par les arts, l'éducation populaire, le partage et la sensibilisation. Il contribue au rayonnement et à l'enrichissement des patrimoines culturels du Québec et du Canada par la diffusion des littératures créoles et africaines. Il aide les jeunes créolophones canadiens et québécois à découvrir leurs identités. Il crée le pont entre les créolophones du Québec, des Caraïbes, de l'océan Indien et des diasporas. Il développe des échanges entre les auteurs, les artistes, les chercheurs et les amis de la langue créole par l'organisation de multiples activités hautement culturelles et artistiques. Toute l'équipe de la radio dit haut et fort, merci en pile à KEPKA et le Mois du créole à Montréal. Pour tout savoir sur ces prix de reconnaissance, popourichaud.com. Au mois d'octobre, vivez au rythme des cultures créoles du monde sur CUT 89,5 FM Toronto. De 11h à 13h, Popourri Show sur CUT 89,5 FM Toronto. Toute la diversité de la francophonie sur votre fréquence.
France 24. 4 chaînes d'information continue, 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur france24.com et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
Ciné Franco, 25 ans, et ça se fête. Et tout au long de l'année, en ligne ou en salle, restez branchés sur CUT 89,5 FM pour découvrir les rendez-vous et les films de Ciné Franco, reflétant la diversité des cultures francophones. Cinéfranco.com, popourichaud.com, 25 ans, ça se fête. Le livre du jour. Chaque semaine, notre partenaire, la maison d'édition Prise de Parole, nous présente l'actualité et les nouveautés littéraires avec pour seul mot d'ordre, le plaisir. Découvrez les écrivains de la diversité francophone de l'Ontario et du Canada. Chaque dimanche, Popourri Show et Prise de Parole.ca nous donnent envie de déguster des histoires, dévorer les pages, savourer les mots enfin gourmets de la littérature. Retrouvez sans attendre toutes les entrevues des autrices et des auteurs sur popourrichaud.com ou découvrez tout simplement les nouveautés littéraires du moment sur prisedeparole.ca. Poids de neuf, les cafés du Créfaux. Et oui, nos amis du Centre de Recherche en Éducation Franco-Ontarienne, le CREFO, ont le plaisir de vous présenter la 5e saison. Quoi de neuf, les cafés du CREFO. Avec la soif d'apprendre, un membre du CREFO s'assied avec universitaires, artistes ou étudiants pour aborder des enjeux de société de petite ou de grande taille. Cette 5e saison est animée par Amal Madibo, professeure agrégée et directrice adjointe du département de justice sociale en éducation à l'Institut d'études pédagogiques en éducation de l'Université de Toronto. Ses recherches se penchent sur les études noires, la francophonie, l'immigration et la race et l'antiracisme en Afrique. Abonnez-vous au podcast Quoi de neuf, les cafés du CREFO. Et c'est gratuit. Plus d'infos sur oisi.utoronto.ca/fr/CREFO ou tout simplement popourichaud.com. Eh oui, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que Sophie France Solidarité des Femmes et Familles Interconnectées Francophones du Niagara, un organisme communautaire à but non lucratif, planifie, développe, organise et réalise des projets qui répondent aux besoins réels de la communauté immigrante francophone du Niagara. Sophie France est aussi un festival annuel haut en couleur avec Festive Ben, un salon du livre, des ateliers, des projets ambitieux et novateurs. Sophie France, 15 ans déjà, ça se fête! De la culture, de l'art et du patrimoine pour, par et avec les immigrants et les jeunes francophones du Niagara et de Welland. Découvrez les projets de Sophie Franc en cliquant sur sophiefranc.org ou visitez notre site web popourichaud.com. Où que vous soyez, si vous songez un jour vous installer dans la région du Niagara, Sophie Franc vous accompagnera dans votre processus d'intégration en vous offrant des services ciblés dans le domaine social, économique, éducatif et culturel. Pour une intégration réussie, une seule adresse, sophiefranc.org. Sophie Franc, un organisme qui a déjà fait ses preuves. Ensemble, faisons le changement. Au Pourrichaud, 35 ans déjà, fier partenaire de Sophie Franc. Bonjour et bienvenue sur Popourichaud, c'est UTFM, votre magazine de la francophonie. L'ingénieur du son DJ Devera, accompagné de réalisateurs, animateurs de RFI, France 24 et TV5 Monde. En mon absence, Popourichaud, c'est UTFM, vous propose une sélection de meilleurs magazines et podcasts les plus écoutés par les auditeurs de RFI à travers le monde. Vous entendrez des voix de couleur tropicale, l'émission des musiques afro sur RFI depuis 30 ans. Des débats sur l'intelligence artificielle où des experts reconnus abordent les enjeux de cette nouvelle technologie qui est en train de révolutionner notre monde. Un panorama de la presse internationale sur les sujets d'actualité. Sur le pont des arts, 50 minutes pour découvrir, partager, s'étonner, s'évader. Littérature et cinéma, stand-up ou série, peinture ou graphe, musique et slam. Tous les arts sur le pont, sur tous les continents. C'est le nouveau rendez-vous de RFI consacré à la culture, avec les reportages, des chroniques et des correspondants. Et enfin, je vous invite à découvrir toutes les activités, les rendez-vous, les nouveautés littéraires, les bons plans de nos partenaires, en visitant chaque semaine popourichaud.com. Popourichaud, 38 ans déjà, en partenariat avec Radio France Internationale, TV5 Monde et France 24. Reportages, chroniques et des émissions originales à écouter absolument ou réécouter sur popourichaud.com. CUTFM, Popourichaud. Écoutez le monde autrement à partir des mots et des sons des francophonies d'ici et d'ailleurs.
Dans le journal sportif L'Équipe, cela fait bien longtemps que Lia n'est plus sur le banc. Cet été, elle générait seule des podcasts sur les Jeux Olympiques à partir des articles du quotidien. Un grave problème déontologique pour Francis Magua, un des rédacteurs du journal.
Ça a été vendu comme ça ne coûte rien et il n'y a pas de travail supplémentaire au niveau de la direction. Donc notre réaction de se poser des questions sur qui est responsable et qu'est-ce qu'on fait s'il y a une erreur. L'IA, c'est une nouvelle forme de croyance qui permet peut-être d'avoir une rentabilité économique. Mais la conséquence, c'est qu'il n'y aura plus de journalistes.
Et les premiers journalistes touchés risquent d'être les secrétaires de rédaction, c'est-à-dire ceux qui relisent et corrigent les articles. Pourtant, Bien loin de décharger les journalistes de ces tâches supposées rébarbatives et chronophages, les erreurs trop fréquentes de l'intelligence artificielle les poussent à être deux fois plus vigilants. C'est ce qu'explique Éric Barbier, journaliste à l'Est républicain et co-organisateur du Contre-Sommet.
Les secrétaires de rédaction aujourd'hui sont directement ciblés.
Il y a sans arrêt un contrôle humain, une relecture humaine qui est indispensable parce que ces IA commettent tellement d'erreurs qu'il faut repasser derrière elles en permanence. Donc en fait, il n'y a aucun gain de temps. On ne peut pas demander à un journaliste, comme on l'entend aujourd'hui beaucoup, d'ailleurs beaucoup dans la bouche même du président de la République, il faut que les journalistes fassent leur métier, vérifient l'information et tout ça, et leur demander d'IA générative qui n'est pas fiable. C'est complètement paradoxal comme raisonnement. Donc revenons à l'essentiel, revenons aux fondamentaux du journalisme, c'est-à-dire donnons-nous le temps de faire notre métier, un métier qui respecte des règles éthiques, déontologiques, d'information, de collecte d'informations sourcées, vérifiées.
Et pourtant, l'utilisation de l'IA se répand dans toutes les sphères journalistiques. Le journal Le Monde et l'agence France Presse ont déjà passé des contrats avec deux logiciels d'intelligence artificielle générative. Face à cette arrivée massive de l'IA dans les rédactions, Éric Barbier propose des garde-fous.
Ben, c'est qu'on se mette autour d'une table déjà pour en discuter, comme le préconise le CDJ, le Conseil de déontologie journalistique et de médiation, qui fixe une échelle de risque à l'utilisation de ces IA avec un risque faible, un risque modéré, un risque à proscrire, qu'on se mette autour d'une table justement pour, en appliquant cette échelle de risque, pour définir quelles IA on peut potentiellement utiliser, c'est-à-dire celles qui n'ont aucun risque sur nos métiers.
Des chartes pour réguler l'IA commencent à se mettre en place dans les médias, signe que les rédactions prennent de plus en plus conscience des risques que pose un tel outil.
Le soir, c'est Couleur Tropicale.
Dire les raisons que nous avons de nous révolter.
Génération consciente.
Seule la lutte libère.
Vous avez commencé par réveiller ma curiosité.
Couleur Tropicale.
Mais là, vous captez mon attention.
Couleur Tropicale avec Claudicia.
Et Mathieu Salabert, Annabelle Jogamandi, Brittany Lenga. Bonne arrivée, la famille nombreuse. Couleur Tropicale à 30 ans. Tout au long de cette année 2025, nous fêterons, et après justement la grosse fête du jeudi 13 mars, durant 2 heures sur RFI, nous vous proposons une semaine de souvenirs. Demain, place à 8 interviews qui ont marqué l'histoire de Couleur Tropicale. Il n'a pas été facile d'en choisir 8 sur 30 ans d'émission, vous l'imaginez. Il a également été très difficile de choisir 30 titres pour illustrer les 30 ans de Couleur Tropicale. Il a fallu faire un choix, c'est le thème de cette émission. Voici un titre, une chanson, elle symbolise l'esprit de Couleur Tropicale. Ismaëllo, Jamou Africa.
D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Kondiamo Africa, mom laïnya. Manejamo Africa, moi sunyo natange.
Ismaëllo, Jamou Africa, 1996. Ce classique est devenu un hymne pour beaucoup d'entre nous. En 1995, l'année de naissance de Couleur Tropicale, un titre sorti en janvier de la même année est omniprésent dans nos premières programmations musicales. Alliance ethnique, respect.
Yeah. L'alliance sera tellement
funky.
Vina et Melka.
Make it funky.
L'esprit de l'alliance est
funky.
L'alliance sera tellement
funky.
Vina et Melka.
Make it funky.
L'esprit de l'alliance est
funky.
Oui, le sujet est ouvert de manière claire. Aucune ambiguïté, nos rapports sont sincères. Oui, c'est clair, je vous parle de respect. Je vous parle de cette valeur qui se perd en effet. Le monde moderne dissout les vraies valeurs. C'est un, là il y a de quoi avoir le cœur. En mille, mille morceaux, car les villes, villes aussi Joe sont touchées par le manque de respect. Oh.
Come back on a funky track. Once we start, no turning back. Feel the groove and you will move to this all night long. Once you learn, you start to grow. Once you grow, you start to know. Respect yourself and the rest will flow.
Du respect pour le bang bang, boogie boogie, roogie roogie, haha. Respecte l'ancienne école et sa descendance. La nouvelle école a besoin de cette présence en France. Le break est oublié et le rap est commercialisé. Le tag disparaît et le grave ressurgit dans des galeries d'ART spécialisées. Malgré tout ça, des acharnés demeurent dans chaque spécialité. Paye, respect aussi à tous les funky de la planète. Mais quand je dis funky, pensez plus au comportement qu'à l'esthétique et tout le vent. Oui, le funky est un état d'esprit. Sachez que l'oriental number one, on fait partie. Je...
Pour les fans de funk et de hip-hop, respect d'Alliance Ethnique comblait nos deux passions. Merci, merci Kamel. Deux ans plus tard, en 1997, tout le monde était sous l'influence de la loi de Kofi Olomide.
Alléluia. Chivundu. Ascenseur, vérité et un escalier payé Koumi.
L'album et le titre signé Kofi Olomide, sorti en 1997, un an après sa réconciliation musicale avec Papa Wemba pour l'album Wake Up. Voici justement Papa Wemba. En 1995, le chef coutumier de Molokai triomphe avec l'album Émotion.
Show me the way I can go. Take me by the end.
Show me the way.
Take me by the end. Show me the way I can go.
Wemba, sa voix, sa voix, sa voix, sa voix. Qui peut oublier une telle voix? Papa Wemba, Show Me The Way. Un classique parmi les classiques. Bonne arrivée si vous nous rejoignez. Semaine anniversaire dans Couleur Tropicale. Et en ce jour, pour nos 30 ans d'existence, nous vous offrons 30 titres qui ont marqué l'histoire de l'émission qui donne le pouvoir aux musiques afro.
De passion comme une feuille au moindre frisson quand tu es là près de moi. L'amour est un poison que je consomme avec des raisons rien que pour toi, que pour toi. Comme une hirondelle en pleine tempête, tu es le soleil qui sèche mes ailes. Je te veux toi, rien que pour moi. J'ai attendu, mais maintenant l'heure est venue de t'avouer tout l'amour que j'ai pour toi.
En 1998, sur l'album de la chanteuse guadeloupéenne Jani, on découvrait un jeune chanteur, Sly, et c'est Flamme, sa chanson, qui fera le succès de l'album de Jani.
Couleur, couleur, tropicale.
That's funky. That's funky.
C'est chalet, chalet, ouais.
Couleur tropicale, ou rien.
Well, well, Chico, coming to your Caribbean city, you and your pueblo, myself plus every other MC you know from my crew. Hit you with the crazy menu, will please you with the fat beats, cute hair with lotion. I got no magic potion, just emotion. Music I create, that's a patient. Make a lot of dough and smile, that's my mission. Delicious, specialist, not the Van Down. You wanna play the Van Down? Niggas wanna ambush me, cause bush I bush too much. That's why I stay in the bush. Check out the sound I hit like bamboo. Check out the beats that change the head. The original, sex crocodile. The original, sexy and wild. Better bounce, baby.
Keisha, fils du Congo et d'Angola par sa mère, reprend l'orchestration de Oulé de Kassav pour son Bones Baby. Pour la petite et grande histoire, sachez que Jacob Desvarieux était l'un des meilleurs amis du papa de Keisha. J'ai le souvenir d'un séjour mémorable à Cotonou. Jacob, Keisha et moi avions décidé de passer du temps ensemble au Bénin. Ça a duré à peu près 3 semaines. C'était en 2000. Que de bons souvenirs. À la radio justement, et dans toutes les radios même de Cotonou, il y avait cette chanson.
Bread room, we know he's bed play. Bonyo no see her there.
ami to jejeje nu doni.